Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour. Avec mes deux invités, que je remercie pour leur participation, maître Yves-Marie Moret et le professeur Jean-Jacques Pluchart, nous allons apporter un nouvel éclairage sur un thème qui ne recueille pas spontanément l'enthousiasme dans la culture française, le lobbying. Le lobbying, en français, les stratégies d'influence, n'ont pas bonne presse, en tout cas auprès du grand public, qui l'associe à des pratiques nauséabondes, souvent d'ailleurs plus politiques qu'économiques, voire à des trafics plus ou moins souterrains ou condamnables. Une image mondialement diffusée résume parfaitement ce divorce à la française avec les pratiques du lobbying. Rappelez-vous, nous sommes le 18 mai 2004 à 13h30. Dans quelques minutes, le CIO va faire connaître le nom de la ville choisie pour organiser les Jeux Olympiques de 2012. Deux villes font figure de favoris, Paris et Londres. Paris, semble-t-il, avec une longueur d'avance. 13h48, sur tous les écrans apparaît le nom du gagnant. The winner is London. Ce drame se joue en direct. D'un côté, on voit la liesse à Londres avec une équipe gagnante qui fait une déclaration pleine de retenue, mais significative. Je cite « Nous sommes heureux d'avoir pu montrer que notre projet correspondait aux attentes du CIO. À Paris, c'est la stupeur. Blême, le chef de la délégation française, le maire de Paris, Delannoy, déclare dans ce qui restera comme une démonstration évidente de l'incompréhension française des règles du jeu international. Je cite « Notre projet était le meilleur. Les règles du jeu n'ont pas été respectées. Certaines pratiques sont condamnables. Il reste que les Anglais ont gagné. » Ce douloureux exercice de mémoire que tous ceux qui espéraient légitimement la victoire de Paris montre toute la difficulté des acteurs et des décideurs français pour intégrer la réalité, les codes et les règles du jeu du Nouveau Monde. Or, le lobbying fait intégralement partie des règles du jeu. Si la France a une difficulté culturelle avec le lobbying, rien n'est pourtant perdu. L'intelligence économique et les actions de lobbying en France existent, bien qu'elles soient, par nature, dans le domaine de la discrétion. Plus particulièrement, l'Europe est un des champs privilégiés d'action pour les lobbyistes. Le lobbying est en réalité un enjeu majeur pour les groupes d'intérêt, les États, les entreprises, pour faire valoir leurs points de vue et leurs intérêts. Personne ne saurait s'en passer. Aussi, je vous propose d'éclairer ce débat, si vous le voulez bien, chers invités, sur trois plans. Tout d'abord, qu'est-ce que le lobbying? Quelle est la part du mythe et des réalités? Comment s'exprime en France, en Europe, dans le monde, quels sont les acteurs? Dans une deuxième partie, nous essaierons de préciser les objectifs et les enjeux du lobbying. Enfin, nous illustrerons, avant nos conclusions, les actions concrètes de lobbying, ses réussites, ses échecs, pour rechercher, bien entendu, ensemble, les voies pour la France pour devenir ou redevenir un acteur significatif dans ses actions. Mais au préalable, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais présenter plus complètement, avec leur accord et leur complément, nos invités. Tout d'abord, maître Yves-Marie Moret, qui est franco-belge. Il est né à Bruxelles à l'époque de l'adoption des traités de Rome. Il s'ouvre alors à l'Europe dès son plus jeune âge. Il s'inscrit au barreau de Bruxelles et de Paris. Il devient président d'Eurolo, nous y reviendrons. Et il préside aussi l'association Culture Économie Défense, pionnière dans le secteur de l'intelligence économique et stratégique. Et votre cabinet dispose d'implantations à la fois à Paris et à Bruxelles. Alors, quant au professeur Jean-Jacques Pluchart, c'est un universitaire, mais qui a une formation et une expérience duale, puisqu'il a été aussi de l'autre côté de la barrière dans les entreprises, où il a occupé des fonctions de responsabilité, notamment dans la finance, et en particulier dans le secteur pétrolier. Actuellement, donc, professeur d'université à la Sorbonne, Paris 1, votre champ de responsabilité touche plus particulièrement à la veille technologique et à l'intelligence économique, de même qu'au management stratégique et à la gouvernance d'entreprise. Vous êtes par ailleurs, je le note au passage, diplômé de l'Institut de Haute Finance Et vous avez été, en son temps, nominé et même vous avez obtenu le prix spécial du jury du prix Turgot pour une publication qui avait marqué en son temps. Donc, merci à tous les deux. Je commence par Maître Yves-Marie Moret. Tout d'abord, peut-être pour ajouter un complément à cette présentation et nous dire un mot d'emblée sur Eurolo et son cabinet.
Eurolo est un des tout premiers groupements européens d'intérêt économique qui a été créé au début des années 90, dont le siège à l'époque était à Bruxelles. Il rassemble, avec l'avènement du grand marché unique européen que Jacques Delors avait lancé dès son arrivée à la présidence de la Commission européenne, milieu des années 80. Le grand marché unique, c'est le 1er janvier 1993, et donc il a semblé logique à toute une série d'avocats en Europe de se rassembler dans une association d'avocats d'affaires qui, dès le départ, pratique la transversalité. C'est-à-dire que dans le monde des affaires, il ne peut pas y avoir une dimension uniquement dans le cas d'espèces juridiques. Il faut qu'il y ait une dimension financière, une dimension comptable, une dimension lobbying, une dimension intelligence économique. Et même si tous ces mots-là, en particulier intelligence économique et stratégique et lobbying, étaient peu fréquents dans la bouche et dans l'esprit des avocats et des professionnels du chiffre et des professionnels de la finance au début des années 90, c'est une réalité qui s'est inscrite dans la vie de cette association Eurolo, qui aujourd'hui compte un peu moins de 250 avocats en Europe, dans différents pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Russie. Nous avons également des implantations dans des pays hors de l'Europe, et c'est une association qui compte donc aujourd'hui 17 ans d'existence, et dans laquelle en particulier des dossiers d'intelligence économique et de lobbying ont permis aux clients de prendre conscience que l'avocat est évidemment au cœur d'une démarche d'influence, et j'en parlerai tout à l'heure.
D'accord, donc vous êtes des experts extrêmement représentatifs, c'est très complémentaire avec votre présidence aussi de la CED.
Alors le CED est une association qui, comme vous l'avez dit, est pionnière en matière d'intelligence économique et stratégique. Elle a été créée en 1997 et compte aujourd'hui des membres qui appartiennent tout à la fois au monde de la défense, des officiers supérieurs aux généraux qui appartiennent à nos quatre armées, des fonctionnaires nationaux ou communautaires et des dirigeants d'entreprise dans lesquels j'intégrerai à volonté des professionnels libéraux, puisque vous le savez, les professionnels libéraux se doivent d'être des dirigeants d'entreprise. Il est fini le temps où on faisait simplement avancer la jurisprudence sans se préoccuper de la rentabilité de nos structures. Donc voilà les trois composantes du CED qui fêtent l'année prochaine son 10e anniversaire. Comme le nom l'indique, culture, économie, défense. Nous avons donc trois axes. L'axe le plus important est celui de l'économie, c'est à peu près 75% de nos activités. L'axe défense pour à peu près 20%. Et enfin l'axe culture, dont j'aimerais toucher un mot tout à l'heure, qui est un axe majeur pour donner à l'Europe une image, une crédibilité et une âme.
Parfait. Je pose maintenant la question à Jean-Jacques Muchart. Un complément sur cette présentation rapide, notamment sur vos centres d'intérêt. Peut-être avez-vous travaillé particulièrement sur le lobbying à une époque.
Oui, je ne suis pas personnellement un lobbyiste, je ne suis qu'un simple observateur de l'environnement très riche et très dynamique du lobbying, particulièrement dans le cadre de l'Union européenne. Comme vous le rappeliez, j'ai été donc cadre junior puis senior dans un grand groupe énergétique qui pratique une intense activité de lobbying à tous les niveaux. On pourra évoquer d'ailleurs ces différents niveaux dont certains sont assez méconnus. J'ai enseigné à l'Université de Paris 2 qui serait, paraît-il, la première pépinière française d'avocats lobbyistes, et j'ai également animé un séminaire sur l'économie européenne, c'est ma discipline, donc l'économie financière en particulier, dans le cadre de l'Institut catholique de Paris, qui, on le sait trop peu, a été la première instance universitaire à créer un master de communication d'influence dans le cadre de l'Union européenne, qui est dirigé par Monsieur Clamen, qui est l'auteur remarqué d'un des ouvrages de formation au lobbying.
Je vois que Yves-Marie Moret approuve et opine du chef.
Le monde est très petit. Michel Clamen, effectivement, était respectivement dans le cabinet du deuxième secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui est Edith Cresson, mais également dans le cabinet d'Elisabeth Guigou, membre actif de son cabinet. Et je suis heureux d'entendre ce que vous dites pour Michel Clamen, qui est un de mes amis, qui est d'ailleurs membre depuis l'origine de Culture, Économie et Défense, et qui effectivement a rédigé de très nombreux ouvrages sur le lobbying. Et Michel l'avait d'ailleurs, au milieu des années 80, rédigé plusieurs documents importants pour que la France prenne conscience de l'importance de Bruxelles dans les démarches d'influence. Il avait notamment rédigé 93 clés pour rentrer à Bruxelles. Je n'ai jamais compté, c'est en 93. En tout cas, c'était les clés d'accès à Bruxelles. D'accord. Et je suis heureux que l'on parle d'un ami.
Et il forme effectivement chaque année des promotions de 10 à 15 juristes pour l'essentiel qui vont devenir avocats parlementaires, membres de grands cabinets d'avocats.
Dont j'ai accueilli plusieurs de ces étudiants.
Eurolo en particulier. Voilà. Donc j'interviens qu'en amont, si vous voulez, de ce processus de visation, de bise. Et j'avoue que, n'ayant qu'une connaissance livresque du lobbying, j'en constate tout le grand dynamisme et, je dirais, l'évolution très spectaculaire de sa représentation dans l'esprit d'un certain nombre de groupes socio-professionnels. C'est vrai, vous disiez en introduction que le lobbying avait en France en particulier, ce qui n'est pas du tout, je pense, le cas dans un environnement en particulier anglo-saxon ou asiatique, avait relativement mauvaise presse pour des raisons sur lesquelles je pense il conviendra peut-être revenir. Cette mauvaise presse a des fondements qui sont très largement inexpliqués, sont d'ordre culturel, qui tiennent probablement à une conception de l'intérêt général et des intérêts particuliers qui n'est pas la même que parmi les anglo-saxons. Et donc je pense que c'est un point qui méritera
un
plus ample développement.
Ok, bien alors nous allons maintenant rentrer directement dans le sujet avec une description, en quelque sorte, et une définition de l'activité de lobbying, qui est donc une activité professionnelle, Yves-Marie Moret.
Totalement. Le lobbying aujourd'hui ne s'improvise pas ou plus. Le lobbying est une activité professionnelle, c'est un métier. Il est difficile car il n'existe pas encore d'ordre professionnel des lobbyistes à Bruxelles. On est au début d'un projet de réglementation qui permettrait de définir qui est qui et qui fait quoi. En ce qui concerne les avocats lobbyistes, eux évidemment, ils appartiennent à un ordre professionnel qui a des règles éthiques extrêmement bien établies, notamment la confidentialité entre avocat, le secret professionnel vis-à-vis de son client, et également la possibilité de défendre des intérêts opposés, ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Alors, le lobbying, une définition extrêmement simple. Oui, le lobbying consiste dans des démarches d'influence. L'influence n'est pas du tout un terme négatif. Il n'est absolument pas synonyme de pratique, de trafic d'influence, ni de pot de vin. L'influence est tout simplement le rôle qu'une initiative privée, donc ça peut être ou une entreprise, ou un ordre professionnel, ou un État, exerce auprès de celui ou de ceux qui ont le pouvoir de proposer une réglementation ou de l'adopter. Autrement dit, le lobbying, si vous ne voulez pas utiliser le mot influence, parce que dans l'esprit de certains c'est un terme négatif, il faut dire présence d'intérêts spécifiques, catégoriels, généraux, dans le mécanisme de prise de décision, qu'il soit national ou communautaire. Il s'agit là, je le répète, d'une profession qui suppose un certain nombre de compétences, et notamment une compétence parfaite du mécanisme de décision, et donc par conséquent des règles juridiques qui entourent ce mécanisme de précision, et aussi de toute une série d'outils dont on va parler ce matin, notamment l'intelligence économique et stratégique, notamment la communication et notamment les relations publiques.
Oui, peut-être ce qui gêne, on va dire, le grand public, c'est qu'effectivement, le secret est au centre de toute stratégie et que par définition, le lobbying intervient sur ce domaine et donc il est aussi lié à un certain confidentialité, pour ne pas dire secret. Donc simplement la question qu'on a vu les acteurs, donc vous l'avez rappelé, cabinet et réseau d'avocats sont en première ligne. Y a-t-il une différence entre intelligence économique et lobbying? Je sais que cette question est redondante. Je suis pas certain qu'on ne l'ait pas déjà posée plus de 1000 fois.
Bien sûr. Je dirais que avant de faire du lobbying, il faut évidemment passer par la phase de l'intelligence économique et stratégique. L'intelligence économique participe à, d'abord au niveau de son anticipation, elle participe à la préparation de la décision du chef d'entreprise privé, chef d'entreprise publique, et concerne toute la veille, qu'elle soit concurrentielle, qu'elle soit législative. C'est donc une collecte d'informations et l'analyse de celle-ci pour effectivement disposer de la bonne information au bon moment. Quant au lobbying, le lobbying est un outil de communication dont l'objectif est d'influencer les pouvoirs publics dès lors qu'ils sont en train de préparer une réglementation ou en train de l'adopter. Voilà donc la différence majeure. Il y a d'abord une phase d'intelligence économique et stratégique, et ensuite, dans un second temps, lorsque la stratégie de l'entreprise a été arrêtée, il faut défendre cette stratégie auprès du décideur public.
D'accord. Alors, donc, ces actions par réseau ont certainement une valeur difficile à estimer. Cette valeur immatérielle des réseaux de lobbying et de leur activité, vous en pensez quoi, Jean-Jacques Bouchard ?
Oui, je me permettrai de revenir juste un instant sur la différence entre l'intelligence économique et le lobbying. On présente le lobbying comme étant complémentaire souvent à l'intelligence économique. Je pense que c'est en fait un des leviers essentiels de l'intelligence économique. Absolument. Il y a nombreux synonymes à cette activité fondamentale de société moderne, en particulier competitive intelligence. Je pense que competitive intelligence, c'est plus signifiant que intelligence économique ou business intelligence. Pourquoi ? Parce que c'est justement ce terme de compétitive qui va permettre de définir la valeur ajoutée apportée par le lobbying, qui a un rôle d'interaction qui ne se limite pas à une simple communication d'informations à des décideurs publics, mais qui a également un rôle, je dirais, de dialogue, donc de recueil également. C'est le cas de l'intelligence économique. De recueil d'informations, il y a vraiment interaction entre les acteurs qui représentent des intérêts privés et publics. Donc cette valeur ajoutée, elle est apportée par le fait que de ce dialogue va naître un environnement normatif, réglementaire, politique, qui va être favorable, plus ou moins favorable, à la construction d'avantages compétitifs par les entreprises, soit d'une région, soit d'un État-nation, soit d'une grande zone de libre-échange, une zone économique comme l'est l'Union européenne. Et donc la valeur ajoutée du lobbying, qui est un levier essentiel de gestion de la connaissance, eh bien, elle est là. Elle est dans cette contribution essentielle à la création de cet environnement favorable à la création d'avantages compétitifs. Et ça, c'est une leçon qui nous a été malheureusement apportée par un anglo-saxon, je dirais, il y a déjà plus de 20 ans, par Michael Porter, dans un ouvrage célèbre, L'avantage concurrentiel des nations, qui montre que sans conditions favorables au niveau de la concurrence entre les firmes, au niveau de la consommation, au niveau des facteurs matériels, immatériels de l'offre, au niveau également de l'organisation de grappes industrielles, le cluster de pôles de compétitivité, on dirait en France. Eh bien, sur ces quatre facettes du fameux diamant de Michael Porter, le lobbyiste, les réseaux de lobbying doivent intervenir pour éclairer les décideurs,
les orientés
politiques, les hauts fonctionnaires sur les conditions qui doivent être remplies pour que les entreprises puissent être réellement compétitives face à une concurrence qui est de plus en plus vive et donc créatrice d'emplois.
Valeur ajoutée.
Donc la valeur ajoutée est tout à fait essentielle. C'est un des conduits fondamentaux d'information des dirigeants. Public, bien sûr, en priorité, mais également privé, qui aujourd'hui, malheureusement, et parfois, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu...
Assez mal compris.
Mal compris.
Très bien. Alors, donc, dans le prolongement de ce que vient de dire le professeur Puchart, Yves-Marie Moret, notamment sur la création de valeur, je poserai presque une question insidieuse. C'est pas un jeu, parfois, à somme nulle?
Tout d'abord, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il est certain que lorsque en langue française, on parle d'intelligence économique. Le mot intelligence est perçu dans sa connotation anglaise, c'est-à-dire la notion de renseignement. On trouve effectivement en anglais les termes de business intelligence, de competitive intelligence. On trouve également dans la littérature la notion de sécurité industrielle. Je voudrais d'entrée de jeu indiquer que le lobby n'est pas forcément fondé sur la notion de secret. Le binôme secret et alliance est au cœur effectivement de la démarche d'influence. Chaque entreprise a ses secrets, secrets d'affaires, secrets de fabrication, mais à un moment donné, vous ne pouvez bien entendu pas, lorsque vous êtes dans le mécanisme de prise de décision nationale ou communautaire, agir tout seul. Il va falloir trouver des alliances, parfois même avec des concurrents, dans la mesure où, en particulier sur le niveau, au niveau communautaire, les décisions se prennent par les États membres, et je voudrais ici profiter de ce micro pour dire que ce n'est pas la Commission européenne qui décide. On entend tout, trop souvent dire, ou lire dans nos médias, on lit trop souvent dans nos médias, on entend trop souvent dire à la radio, Bruxelles a décidé que, donnant l'impression que c'est la Commission européenne qui décide. La Commission européenne, elle propose. Ce sont les États membres, aujourd'hui 27, qui, à Bruxelles, décident de l'adoption ou de la non-adoption de telle ou telle réglementation. Et dans les États membres, il y a notamment la France. Donc les représentants de la France votent à Bruxelles. Ce n'est donc pas la Commission européenne. Et tous ceux qui sont des européissimistes devraient jamais oublier cette dimension incontournable. Donc, quand vous parlez de l'importance des réseaux, oui, pour la définition d'une stratégie, en particulier lorsque vous avez à trouver des alliances avec des concurrents, il est important d'avoir un réseau parfaitement établi dans votre secteur industriel afin de donner aux décideurs publics une pertinence à vos propos, de faire non pas un lobbying défensif en disant vous n'avez rien compris et on est les seuls à avoir raison tout le temps, il faut faire un lobbying réactif, proactif même, c'est-à-dire de proposer aux décideurs publics en train de rédiger la norme, en train de rédiger la réglementation, de lui proposer un retour d'expérience de l'impact de la réglementation en cours de gestation sur la vie de l'entreprise qui va tenter de défendre ses intérêts auprès de lui. Alors, ce n'est pas un jeu à somme nulle, je vous rassure tout de suite. La défense des intérêts catégoriels se fait évidemment par des fédérations européennes, se fait par des ONG, se fait par des think tanks. Et je pense que un dossier de lobbying bien défendu amènera à la défense bien comprise des intérêts d'une entreprise. Et je pense que l'on a toujours intérêt à rencontrer le décideur public communautaire. J'insiste également sur ce point, il y aura quelques mots-clés qui vont être distillés ce matin. Nous sommes au niveau du décideur public communautaire en parfaite transparence. Et donc je pense que le jeu n'est jamais à somme nulle, nous avons toujours tous, chacun d'entre nous, de la société civile européenne, à défendre nos intérêts auprès du décideur public communautaire pour que l'on n'ait pas un jour à se reprocher de ne pas l'avoir fait et que l'on vous dise « il est trop tard maintenant ». Donc ce n'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu important pour la défense des intérêts des entreprises que nous représentons.
Bien, merci d'avoir précisé avec autant d'enthousiasme ce point. On rentre déjà de plein pied dans les objectifs. Si vous voulez bien, on va le faire dans une deuxième partie et nous allons marquer une pause de quelques instants. Merci à vous. Chers amis, nous reprenons donc notre réflexion, notre éclairage sur ce sujet particulièrement intéressant, le lobbying, et nous disions que nous allons préciser les objectifs et les enjeux du lobbying. Alors si j'ai bien compris, Maître Yves-Marie Moret, c'est de faire passer une vision d'un groupe d'intérêt, d'une entreprise, d'un État, et de peser sur une décision. Alors que... est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez illustrer un petit peu ces éléments d'enjeux et d'objectifs du lobbying?
L'enjeu est très simple, c'est évidemment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de porter la défense des intérêts d'une entreprise. Et quand je parle d'entreprise, il ne s'agit pas du tout, et je m'inscris en faux contre cette idée qui est trop répandue, le lobbying ne concerne pas uniquement les grands groupes. Ouais. Lesquels grands groupes sont le plus souvent implantés à Bruxelles? On pourra en reparler d'ailleurs. Le lobbying vise toutes les entreprises, et en particulier les PME, qui, évidemment, par leur taille, sont obligées, à l'inverse des grands groupes, qui, je dirais, n'ont besoin de personne pour défendre leurs intérêts. Les entreprises, les PME, ont évidemment besoin de se fédérer Alors elles ont des fédérations nationales, qui le plus souvent sont membres d'une fédération européenne. Mais la chose importante à dire ce matin, c'est que le lobbying concerne toutes les entreprises.
D'accord, pas simplement que les grandes.
Et pas simplement que les grandes. Sans oublier que dans un pays comme la France, le nombre de PME est très largement supérieur à 2 millions. Et par conséquent, c'est une démarche qui concerne tout le monde. Alors, comment faire pour une PME pour que ses intérêts soient correctement défendus? C'est évidemment d'abord d'être membre d'une fédération nationale. Et ensuite, parfois, lorsque on arrive, et nous avons eu des exemples au sein de notre association Rollo, lorsqu'une entreprise est pratiquement seule, être concerné par un projet de réglementation communautaire, il faut évidemment que cette PME monte elle-même au créneau et défende correctement ses intérêts à Bruxelles. Donc, quel est l'objectif? C'est la prise en compte des intérêts d'une entreprise par le décideur public. Et l'enjeu, c'est évidemment, ou la cible, c'est évidemment le décideur public. Et dans la mesure du possible, il faudra évidemment s'en faire un allié pour qu'il soit convaincu du bien fondé des intérêts que vous représentez. J'insiste également sur un mot-clé. Il faut sortir de l'esprit de nos auditeurs que le lobbying, non seulement ne concerne que les grands groupes, je viens de le dire, et que le lobbying s'adresse tout de suite au président de la Commission européenne ou au président du Parlement. Il n'y a rien de plus faux.
Oui.
Vous devez, dans les démarches de lobbying, prendre contact avec les fonctionnaires de la Commission qui sont en train de rédiger telle proposition de réglementation, tel amendement à une réglementation déjà existante et remonter la hiérarchie du bas vers le haut. Et les rendez-vous au tout haut niveau, au niveau d'un commissaire, au niveau de la collégialité des commissaires, ne s'envisagent que de manière tout à fait exceptionnelle. Du bas vers le haut, et vous devez évidemment faire cet exercice non seulement auprès de la Commission européenne, mais également auprès du Parlement européen. Auprès, et je voudrais insister sur cette institution qui n'est pas très connue et qui est notre institution à nous, parce que c'est l'émanation de la société civile à laquelle nous appartenons tous, composée qu'elle est par des employeurs, par des salariés, mais également par des professions libérales. C'est le Comité économique et social européen, qui rend des avis, mais il est important d'approcher les membres du Comité économique et social européen pour que vous ayez un réseau parfaitement établi dans les différentes institutions, sans compter bien entendu l'importance du réseau au sein des États membres, puisque vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les États membres qui votent. Il faut évidemment approcher chacun des États membres quand vous faites des démarches de lobbying.
Simplement, Maître, en vous écoutant, il me vient à l'idée une question, puisque vous êtes très centré sur la communauté européenne. Le lobbying dépasse très largement la cible de la communauté européenne, je suppose. Mais bien évidemment, pour nous, membres de cette communauté, c'est une. Je suppose que ces actions peuvent porter sur peut-être du côté américain, ou, etc.
Encore une fois, le lobbying est général, puisqu'il concerne les démarches d'influence, les démarches d'approche du décideur public. Comme vous le savez aujourd'hui, nous avons un droit qui ne vient plus uniquement de la sphère nationale. Mais là, oui, il est important de faire du lobbying auprès du décideur public national. Nous avons un droit qui, très souvent, est directement applicable, c'est le droit communautaire. Nous avons un droit international qui vient de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, oui aussi, il faut évidemment être présent dans le mécanisme de décision des règles de l'OMC. Et d'une manière générale, lorsque les entreprises, puisqu'on parle des entreprises françaises, européennes, s'intéressent à des implantations à l'étranger, en dehors de l'Union, oui, il faut faire cette même démarche d'influence pour que les intérêts de l'entreprise soient correctement défendus. Mmh. Le lobbying est une notion générale et abstraite
tout à fait.
Auprès du décideur public.
Alors, justement, Jean-Jacques Bouchard, que tout à l'heure parlait de la compétitivité des différents réseaux, c'est peut-être ce que vous vouliez dire. Qu'en est-il? C'est-à-dire, on sait qu'on a des réseaux français, d'origine française particulièrement compétents et actifs, mais les grands compétiteurs mondiaux, c'est qui? C'est les anglo-saxons, peut-être.
Oui, on oppose fréquemment le lobbying anglo-saxon au lobbying latin, auquel se réfèrent les différentes formes de lobbying français, enfin disons européens, continentaux. Mais je crois que ces deux formes de lobbying, l'une plutôt conceptualisée et encadrée, que le lobbying anglo-saxon est plus informel, plus intuitif, enfin du moins dans les représentations courantes des formes du lobbying, je dirais, ces deux formes ne sont pas si éloignées que l'on veut bien le dire. Il y a d'ailleurs des critiques récurrentes qui sont formulées, comme venait de le dire Maître Moret, à l'encontre de ces formes de lobbying qui serviraient, dans les deux cas, plutôt les intérêts des grands groupes, le big business, et qui serviraient aussi de canaux, de collecte de fonds, le fundraising américain. Et on cite souvent l'exemple, bien sûr, d'Enron, qui a été, jusqu'à sa chute en novembre 2001, le premier lobbyiste américain. Je pense qu'il ne faut pas opposer ces deux formes de lobbying. Mmh. Simplement, il y a des ancrages, des encastrements, comme dit Granovetter, dans des réseaux de lobbying, dans les cultures nationales. Et en particulier, dans le cas français, il y a effectivement un lobbying qui a été, je le pense, en partie occulté par une politique industrielle qui a été essentiellement axée sur les champions nationaux, la compétitivité nationale reposant sur un certain nombre de grands groupes contrôlés par des intérêts nationaux, avec une technostructure partagée entre des hauts fonctionnaires et des managers généraux, issus souvent des mêmes écoles, et qui ont cherché ensemble des compromis justement sur les conditions de la compétitivité de ces entreprises, sans intermédiation de lobbyistes. Et puis il y a une deuxième forme tout à fait différente, qui relève bien la culture française et qui est bien mise en valeur d'ailleurs dans les différents ouvrages de Laurent Cohen-Tanoudjik, qui je crois avait été interrogé ici même. C'est la forme de la concertation qui fait que, pour régler un conflit, on a eu un exemple récent et encore pendant d'ailleurs aujourd'hui avec la promulgation de la loi Pécresse, université qui me touche beaucoup étant universitaire, étant victime depuis un mois et demi de blocage universitaire. La concertation consiste, après publication par les médias du contenu d'un décret, de convoquer et les partenaires sociaux.
Donc c'est pas tout à fait
plus
ça,
ou moins spontané.
Qu'il faudrait faire.
Et donc dans l'urgence, dans la crise, essayer de débattre sur un problème souvent d'une très grande complexité. Là c'est bien le rôle des réseaux de lobbying que d'expliquer, que d'imaginer avec les décideurs publics des solutions complexes à trouver à des problèmes complexes. Et là, je crois qu'il faut citer aussi Guillaume Morin. Je cite au moins, sinon la lettre, du moins l'esprit de la méthode de Guillaume Morin, qui dit il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes, donc on ne peut pas trouver à 40 partenaires autour d'une table en quelques heures une solution à un problème aussi complexe et historiquement crucial que celui, je citais l'exemple des universités. Et je permettrai très brièvement, parce que je sais que le temps nous est compté, de citer une des phrases clés de l'ouvrage de Laurent Cohen-Tanoudjik, qui est lui-même d'ailleurs un grand lobbyiste, hein, qui dit « L'éducation nationale offre l'image d'un univers où la hiérarchie administrative et les corporatismes syndicaux forment les deux éléments d'un même complexe. Certains intérêts particuliers ont tellement investi l'intérêt général que toute forme de lobbying est devenue superflue. »
Donc, ça,
je crois, définit très bien une des deux formes d'intermédiation ou d'absence d'intermédiation qui caractérise la culture française et montre que nous passons sans transition, c'est le titre de son chapitre d'ailleurs, du décret à la grève, par insuffisance de lobbying.
Voilà. Alors, Maître Yves-Marie Moret là, va rebondir, semble-t-il. Hein, il est prêt.
Forcément, les mots de l'un rejaillissent sur les propos de l'autre. Oui. C'est l'idée même d'un débat comme celui-ci. Je dirais que, fort d'une expérience de 25 ans de lobbying à Bruxelles, je verrais trois différences majeures entre le lobbying que l'on peut appeler l'anglo-saxon et le lobbying latin, pour ne pas dire le lobbying français. Trop longtemps, je crois que les mentalités sont en train de changer, mais trop longtemps, en tout cas jusque dans un passé récent, le lobbying était perçu dans la vie de l'entreprise, et en particulier les ambassadeurs des entreprises à Bruxelles, les lobbyistes à Bruxelles, étaient perçus comme des individus dont la tâche était de restituer de l'information, de recueillir l'information et de distribuer l'information au siège de l'entreprise. Alors qu'en réalité, le rôle d'un lobbyiste n'est pas uniquement cela. Si le lobbyiste ne fait que cela, il n'a pas réussi sa mission. Le lobbyiste est évidemment celui qui collecte et qui traite l'information, mais également celui qui exerce un jeu d'influence, l'influence étant définie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans l'approche effective du décideur public. Ça, c'est une grande différence. Le lobbyiste n'est pas là pour diffuser l'information uniquement, il est là pour participer à ce jeu d'influence. Deuxièmement, je verrais la différence majeure au niveau du rôle du lobbyiste et de la place du lobbyiste dans la hiérarchie de l'entreprise. Il est parfois très difficile en entreprise de savoir à quel poste on va le rattacher au sein de l'entreprise. Et il me semble évident que l'ambassadeur d'une entreprise à Bruxelles se doit d'être conseiller du président, se doit d'être conseiller du secrétaire général et évidemment être hors direction particulière, direction juridique ou direction de la communication, il se doit
donc très près de la stratégie
du président ou du secrétaire général. Et troisième différence importante, pendant trop longtemps aussi, la culture française est une culture qui a fait en sorte que l'intérêt général soit dans l'esprit de tout le monde uniquement défendu par l'État. Ce qui signifie d'ailleurs que souvent les Français attendaient tout de l'État pour faire avancer les choses. À mon avis, et vous le verrez au niveau de la présidence française de l'Union européenne qui aura lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année prochaine, une présidence courte puisqu'elle est les vacances, c'est pas une présidence de 6 mois, c'est une présidence de 4 mois et demi, donc très courte. Et vous le verrez déjà, on voit déjà apparaître au niveau des sites internet consacrés à cette présidence, la présidence française sera une présidence citoyenne. Par conséquent, l'intérêt général...
Ça veut dire quoi?
L'intérêt général n'est pas uniquement conçu par l'État. L'intérêt général, surtout lorsqu'on aura une présidence européenne, française, de l'Europe citoyenne, c'est l'intérêt général doit évidemment être également conçu, développé par la société civile à laquelle nous appartenons tous. Et ce sont les trois différences majeures que je verrais. Les choses sont en train de changer. Je pense d'ailleurs que la France a un rendez-vous incontournable avec l'Europe à l'occasion de la présidence française. Vouloir une présidence citoyenne me semble parfaitement judicieux, dans la mesure où il s'agit, je dirais pas d'éradiquer, on ne le pourra pas, mais il s'agit d'atténuer l'impact négatif du rejet du projet de traité constitutionnel du 29 mai 2005. Je respecte parfaitement les gens qui ont dit non, mais j'ai essayé de comprendre leur non. Alors vous avez des gens qui sont toujours non, quoi qu'on leur propose, ils sont non. Oui. Mais je pense que c'est une partie infime, c'est entre 5 et 10% des gens qui ont voté non le 29 mai 2005.
En revanche, notre façon de dire non, c'est oui mais...
Non. En revanche, je pense qu'une partie importante des citoyens français et néerlandais qui ont voté non procède d'individus qui n'ont pas reçu suffisamment d'informations depuis 1951. Lorsqu'on parle d'europessimisme, je me souviens au tout début où Jacques Delors était président de la Commission européenne, 1985, je me souviens que les comptes rendus des conseils européens, nous étions à l'époque 9 pays dans l'Union européenne, dans la communauté européenne, dans le marché commun comme on disait, eh bien ces comptes rendus se trouvaient en page 26, juste avant la nécrologie et juste après l'éventuelle page sportive. Et comment voulez-vous que des citoyens qui ne vivent pas à Bruxelles, à la proximité du décideur public, vous êtes au fin fond de la Grèce, vous êtes au fin fond de l'Irlande, vous êtes au fin fond du Péloponnèse, comment voulez-vous, pour un droit qui leur est directement applicable aux pêcheurs de crevettes à la ligne en Grèce, le droit communautaire s'applique à lui? Comment voulez-vous qu'il comprenne et qu'il aime l'Europe si jamais, depuis 1951, même si la Grèce n'était pas membre depuis 51, elle a pris l'acquis communautaire? Donc, comment voulez-vous que le citoyen comprenne les enjeux si jamais on ne lui en a parlé? Et je pense que cette présidence française, qui se veut une présidence citoyenne de 4 mois et demi, sera une présidence certainement dynamique si chacun d'entre nous, hein, en France, on est 64 millions, mais après, il y a 1,5 milliard d'Européens. Si tout le monde nous mobilisons pour que l'Union européenne soit une grande réussite, ce n'est pas uniquement les politiques qui font l'Union européenne, c'est chacun d'entre nous et c'est un point important. Et je vous répète donc ces trois différences majeures. Le lobbying, ce n'est pas uniquement une restitution d'informations, c'est un jeu d'influence. Deuxièmement, il faut bien situer le rôle du lobbyiste dans la hiérarchie d'entreprise. Et ensuite, l'intérêt général, ce n'est pas uniquement l'affaire de l'État, c'est également l'affaire de chacun d'entre nous, de la société civile.
En tout cas, vous nous avez fait passer votre conviction. Et donc, je considère que ce débat est en plein dans l'actualité à travers ce que vous dites. Alors, ce que je vous propose, c'est que on passe tout à l'heure à une troisième partie où on va donner quelques illustrations d'actions de lobbying. On marque une pause de quelques instants. Bien, alors nous reprenons et nous allons rentrer, on va dire, dans la concrétisation de ces actions de lobbying. Alors Yves-Marie Moret, vous qui êtes acteur sur le terrain de longue date, est-ce que vous avez des exemples en tête d'actions de lobbying particulièrement réussies et peut-être aussi quelques-unes qui le sont moins?
Commençons d'abord par l'échec. J'ai eu l'occasion, comme ce dossier est clos depuis une dizaine d'années, je peux évidemment librement en parler. Nos auditeurs qui ont une quarantaine d'années et plus se souviendront certainement du produit cosmétique solaire phare Bergasol, et qui a occupé dans les années 80 le tiers du marché des cosmétiques solaires. Produit révolutionnaire s'il en est. Et l'entreprise, qui est une PME, n'a pas eu le réflexe, parce qu'à l'époque c'était extrêmement nouveau, hein, les concepts de lobbying, n'a pas eu le réflexe de défendre ses intérêts au bon endroit et au bon moment. Par conséquent, nous avons dû faire un lobbying défensif, c'est-à-dire on n'est pas d'accord avec un projet de réglementation communautaire. Ce lobbying défensif a duré une petite dizaine d'années. Il y a eu, vous citiez tout à l'heure le cas de manœuvre condamnable, en prenant les termes de notre maire Bertrand Delanoë, il y a eu, dans ce dossier-là, des manœuvres parfaitement condamnables et scandaleuses qui ont abouti à la destruction d'une entreprise française qui travaillait donc dans le secteur de la santé publique, qui se battait pour éviter les cancers
cutanés. Je l'apprends, hein. Je ne le savais pas lorsque je
l'ai dit. Les cancers cutanés provoqués par trop de soleil sur une peau trop blanche. Et malheureusement, cette entreprise qui comptait à peu près 500 salariés, qui avait un bon chiffre d'affaires, au fur et à mesure du lobbying destructeur qui était accompli par des concurrents sans scrupules, cette entreprise, voici 10 ans, a été appelée à déposer le bilan. Pourquoi? Parce qu'un lobbying efficace n'a pas été entrepris à temps. Lorsqu'il était encore temps, le professeur Pluchart, je parle sous son contrôle, mais je suis sûr déjà de son approbation, vous savez très bien qu'en matière de lobbying, le temps est une donnée extrêmement importante. Et plus le mécanisme de décision avance, plus on en arrive à une situation irréversible. Et par conséquent, il faut s'y prendre le plus en amont possible. Et malheureusement pour cette entreprise, elle s'est pris beaucoup trop tard. Et par conséquent, cet échec, elle est due d'abord à elle-même et bien entendu à ce jeu d'influence très nocif qui était exercé par les concurrents sur ce fleuron de l'industrie cosmétique solaire française.
Oui, je vais permettre juste une très brève parenthèse, une difficulté justement du lobbyiste est de bien savoir saisir les fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent à lui et qui se referment très vite. Et ça, cette gestion du temps constitue une dimension essentielle de la stratégie d'influence.
Pour chacun d'entre nous, pour les États, pour les entreprises, pour individus, personnes physiques, la possibilité de jouer sur l'histoire. L'histoire avec un grand H est très très limitée en temps. On n'a pas 107 ans pour faire du lobbying, on n'a pas 107 ans pour déclarer la guerre, on n'a pas 107 ans, on a très peu de temps et c'est la raison pour laquelle lorsque vous avez la bonne information au bon moment par ce travail en amont que vous offrent les compétences de l'intelligence économique et stratégique, vous pouvez effectivement profiter des fenêtres de tir réduites en temps.
Donc le mauvais exemple, c'était le
premier exemple, c'est un exemple de lobbying qui n'a pas abouti parce qu'un lobbying défensif.
Mais dans toute activité humaine, en revanche, il y a pas que des réussites.
Non. En revanche, pour parler d'une réussite, dans un secteur qui est important puisqu'il concerne toutes les professions réglementées, vous savez qu'il y en a une dizaine, les avocats, les experts comptables, les sages-femmes, les architectes, les géomètres experts, les avoués, etc., etc. Au début du 21e siècle, au départ d'une plainte qui avait été déposée contre la République française et contre un ordre professionnel français important, pour pouvoir défendre concernant la problématique de la publicité à laquelle les professionnels libéraux qui appartiennent à des ordres professionnels pouvaient recourir. Vous savez qu'on vient d'un système où la publicité était interdite. L'avocat, il y a 20 ou 30 ans, je ne suis même pas sûr qu'il pouvait avoir une carte de visite. Il ne pouvait pas s'associer, il ne pouvait pas participer à des salons professionnels. À l'époque, il n'y avait pas de site internet, donc pas de brochure, etc., etc., etc. Donc nous sommes passés d'un système de l'interdiction d'une publicité à un système qui, au départ d'une plainte qui avait été déposée à Bruxelles par deux grands cabinets du chiffre sur « on voudrait bien faire de la publicité, mais ça nous est interdit aujourd'hui », donc restriction à la libre circulation des traités de Rome, nous avons par une démarche en droit comparé. Regardez, quand je vous dis tout à l'heure que le lobbying ne s'inscrit pas d'abord et uniquement dans le secret, mais dans les alliances, nous avons regardé dans les pays membres de l'Union européenne, quel était le point de vue des différents États. Savoir si les restrictions connues à toute forme de publicité dans les pays latins Italie, Espagne, Portugal, France, étaient identiques dans les autres pays d'Europe. Alors c'est vrai que classiquement, en matière de lobbying, on trouve dans la cartographie des acteurs en Europe, une Europe du Nord qui est plutôt toujours, et si pas toujours, très très souvent très libérale, et puis les pays du Sud qui ont leur culture à eux, et qui est plutôt, en matière de publicité en tout cas, été restrictive. Et grâce à cet apport du droit comparé, on parvient à identifier clairement quels sont les États qui partagent votre point de vue. Les États qui, dans le cas d'espèce, étaient contre ou toute forme de publicité, ou en tout cas qui mettaient beaucoup de restrictions à la publicité, et puis ceux enfin qui sont favorables à une publicité pour les professionnels libéraux. Puis on se rend compte finalement que les États membres à Bruxelles, ce sont eux qui votent, c'est pas la Commission européenne, ce sont les États membres, et on se rend bien compte que lorsqu'il s'agira de voter, eh bien par ce tour d'Europe en droit comparé, on se rend compte que exactement on en est, et par conséquent on peut affiner sa stratégie d'influence. Et aujourd'hui, pour les différents ordres professionnels, la publicité est autorisée, les seuls restrictions sont publicité comparée et démarchage direct. Et encore, dans certains États, même ces deux formes-là d'interdiction de publicité sont autorisées. Je pense en particulier aux pays nordiques. Ça, c'est un exemple, je dirais, de lobbying réussi. Et tout le monde aujourd'hui en est parfaitement satisfait. Enfin, puisque vous me permettez de vous parler d'un dossier qui est en cours et qui concerne la société civile européenne et que mes clients souhaiteraient pouvoir lancer pendant la présidence française.
Oui.
Il s'agit d'un dossier qui concerne un secteur très important de l'économie. Quand je pense que ma consoeur Christine Lagarde espère, pour la fin de l'année, avoir un taux de croissance un petit peu inférieur à 2%, je vous parle là d'un taux de croissance annuel dans un secteur de l'économie qui fait plus de 4% de croissance dans la plupart des pays de l'Union européenne, avec en particulier un taux de croissance dans l'emploi des jeunes entre 15, 16 ans et 25, 26 ans, qui est beaucoup plus important que le taux de croissance des emplois jeunes dans tous les secteurs de l'économie confondus. C'est même le double.
Vous nous faites saliver, c'est lequel?
Il s'agit du secteur du tourisme.
Ah,
et le tourisme concerne chacun d'entre nous. J'ai la chance d'être le Conseil des hôtels historiques d'Europe qui conçoivent, et ce projet tout d'abord sera présenté ce soir au Comité économique et social européen. Une réunion est prévue avec les institutionnels européens début janvier, ainsi qu'avec, bien entendu, le secrétariat d'État au tourisme et la direction du tourisme. L'idée, c'est de permettre aux Européens de trouver ou de retrouver leurs racines, permettre à l'Europe d'avoir une âme, de façonner un visage. Et ce n'est pas simplement un passeport qui est aujourd'hui unique, c'est pas simplement une monnaie qui nous est unique pour 12 pays de l'Union européenne, c'est pas simplement un droit qui est à 80% d'origine communautaire, c'est également nos racines. Et pour découvrir nos racines, le projet, c'est de lancer les routes européennes de l'hospitalité et de l'héritage culturel, qui permettra effectivement à chacun d'entre nous, le projet sera porté par la société civile, et permettra à chacun d'entre nous de découvrir que nous sommes membres des États enfin unis d'Europe.
Parfait. Donc, deux actions réussies, un échec. On a toute bonne raison d'être optimiste pour organiser, en France en particulier, même si on a quelques déficits historiques culturels, un lobbying parfaitement efficace et consensuel et compétitif. Alors, je pense que, comme nous avons déjà passablement avancé dans le temps, sauf si le professeur Puchart veut rajouter
Moi, je dirais simplement qu'en qualité de modeste observateur de ce canal essentiel de la démocratie qui est le lobbying, il n'y aura de progrès réel du lobbying en France, notamment en faveur des forces les plus vives de la nation que sont les PME. Et Maître Morin avait raison de souligner tout à l'heure, le lobbying n'est pas qu'au service du big business. Eh bien, exige une réflexion, je pense, assez approfondie sur la notion d'intérêt général. De l'intérêt général étant non pas perçu comme étant un sens révélé de l'intérêt de la nation, mais comme étant une sorte de plus grand commun multiple des sensibilités et des intérêts particuliers. Les différents acteurs sociaux de plus en plus nombreux, des parties prenantes, des stakeholders, comme on dit aujourd'hui, pour qu'il y ait une bonne gouvernance de l'État. Ça implique une gouvernance partenariale, donc une prise en compte, non pas uniquement des intérêts économiques, mais également des sensibilités, des valeurs socioculturelles, des différents groupes d'acteurs sociaux de la nation. Et cette prise en compte ne peut pas l'être par une simple révélation aux hommes politiques et aux fonctionnaires de ce sens sens de l'intérêt général, mais par un dialogue, une concertation permanente, et qui ne sera pas une concertation de crise, comme c'est trop souvent le cas, mais une concertation par une communication d'influence, notamment par ce canal des réseaux de lobbyistes.
D'accord, je retiens que vous êtes vous aussi optimiste, et c'est fondé. Maître, 30 secondes de conclusion, si je pense qu'on a fait le tour, on en restera là, car je sais que vous êtes particulièrement occupé et chargé. Je pense que cet éclairage, effectivement, nouveau, va pouvoir faire avancer dans la compréhension d'une activité professionnelle essentielle, le lobbying. Merci encore à vous deux. Merci professeur Jean-Jacques Bouchart. Merci à vous, maître Yves-Marie Moret, président de Eurolo et du CED. Merci à vous deux.
Écoutez Canal Académie.